les enjeux. Et c'est ça que je voudrais essayer de donner aujourd'hui, en commençant par situer l'ensemble de l'œuvre. Parce que si on ne la situe pas dans l'histoire de la pensée, et dans un moment très particulier de l'histoire de la pensée, elle n'a, à proprement parler, aucun sens, cette œuvre. En tout cas, vous ne savez pas pourquoi il pose des questions comme celles qu'il pose, et dont vous verrez tout à l'heure qu'elles sont en vérité pleines de sens, et même tout à fait passionnantes, malgré l'aridité apparente du propos. En vérité, pour comprendre Kant, il faut l'inscrire dans la postérité de cette gigantesque révolution scientifique qui va marquer le XVIIe siècle. En gros, depuis la publication des thèses de Galilée sur les rapports de la Terre et du Soleil, ça c'est 1632, plein XVIIe siècle, la publication des Principia Mathematica de Newton, c'est Newton étant le premier grand physicien moderne, on peut dire, c'est 1687. Et puis, on peut peut-être ajouter, pas simplement par nationalisme français, mais parce que, malgré tout, c'est un livre qui, bien qu'il soit très largement faux, a quand même beaucoup compté, faux sur le plan scientifique, les principes de la philosophie de Descartes, c'est 1644. Pourquoi ? Parce que c'est quand même Descartes qui, le premier, va formuler le principe d'inertie, donc un des principes fondamentaux de la physique moderne. Avec cette révolution scientifique, le procès de Galilée, tout le monde a entendu un peu parler de ce procès de Galilée, ce procès de l'Église, ce procès de la religion contre la science.